Bonjour mes frères et sœurs, que la paix et que la grâce de notre Dieu ce matin soient le partage de nous tous. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de celui qui nous a fait cette promesse. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais ce matin, pendant le temps de notre méditation, qui sera peut-être pas longue, en principe quand on dit ça, c'est là qu'on est plus long, mais nous allons revenir ce matin sur ce que nous avons vu déjà lors de trois partage précédent, et cela va nous amener à nous arrêter dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, où nous avons déjà regardé à partir du verset 1er, ce qui ressemble fortement à une exhortation donnée à cette communauté, cette église qui avait été le résultat du travail de l'apôtre, qui en mission avait au cours simplement de trois sabbats, après avoir prêché la bonne nouvelle de l'Évangile, amené qu'il y ait des conversions précédées de repentance, suivies de nouvelles naissances. Et puis, des âmes s'étaient attachées à Jésus-Christ et à sa parole. Et le témoignage qui est rendu de ces personnes se trouve de manière merveilleuse mentionné dans le premier chapitre à partir du verset 2. Si nous voulons en prendre connaissance avant de lire 1 Thessaloniciens 4, vous regardez l'exhortation, mais je parle simplement du résultat produit par le passage de l'apôtre et de ses collaborateurs dans cette contrée, cette ville de Thessalonique, ville portuaire, ville côtière avec un grand brassage de culture, d'ethnie, des entrants, des sortants, des allants et des venants, et ville malheureusement où il existait à cause de cette nombreuse population de diverses origines, il y avait aussi beaucoup d'idolâtrie. Et quand l'Évangile arrive quelque part, que Jésus est reçu dans le cœur, l'une des premières choses que le Seigneur fait, si nous avons été des idolâtres de nombreuses années, le Seigneur détruit l'idolâtrie et remplace cela par la communion avec lui par le Saint-Esprit. À Thessalonique, ça n'a pas dérogé à cette réalité-là. Voici ce que dit le témoignage de l'apôtre lorsque, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, au verset 2, nous lisons et nous irons jusqu'au verset 10 pour bien mettre en place quel était le témoignage et le résultat du travail accompli par l'apôtre et ses collaborateurs lorsqu'il a été un instrument dans la main de Jésus pour pouvoir amener l'Évangile dans cette contrée. Qu'est-ce qu'il dit ? 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 2. « Nous rendons, dira-t-il, continuellement grâce à Dieu, dites avec moi, pour vous, donc personne n'est oublié, du plus grand jusqu'au plus petit, pour vous tous, vous tous qui êtes au bénéfice de la même grâce, vous tous qui êtes devenus désormais enfants du même Père, vous qui avez le même Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, pour vous qui avez la même espérance, vous qui avez la même destination, le royaume de Dieu, vous qui par la foi êtes désormais au rang de ceux qui sont appelés à être fondés, enraciné en Dieu, en Jésus et en ses promesses. Et comme je vous expliquais dernièrement à Thessalonique, deux choses étaient le fondement de l'Église, c'est la foi et l'amour. Et quand la foi et l'amour dans une Église, automatiquement, c'est un fondement sur lequel Dieu peut bâtir. Alléluia. Et comme cela est important, frères et sœurs en Christ, que cela soit le cas aussi au milieu de nous. Oh, je sais que certains disent, mais en compte de ce bien, il n'y a pas d'amour. Eh bien, si vous dites qu'il n'y a pas d'amour, commencez à en amener. Ah ben oui. Mais moi, je vous dis non, en contre-espérance, il y a de l'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas vous qui l'amenez, c'est Jésus qui l'établit. Alléluia. Et après cela, on peut avancer. Alors, regardez avec moi, mes bien-aimés, pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse, quoi? Première chose, l'œuvre de votre foi. C'est-à-dire le travail que la foi a produit, ou le résultat produit par le Saint-Esprit quand vous avez entendu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on... Bien, on est toujours sur le bon terrain. Deuxièmement, avec l'œuvre de votre foi, comme je vous l'expliquais, la deuxième chose, c'est le travail de votre amour. Et troisièmement, la fermeté de votre espérance. La foi, l'amour et l'espérance. Et après, en notre Seigneur Jésus-Christ, et puis il emploie une expression importante de saisir pour nous, enfants de Dieu, mais à Thessalonique, il avait compris, et il mentionne en notre Seigneur Jésus-Christ, mais devant Dieu notre Père. Devant Dieu notre Père. Ça veut dire le travail accompli et mentionné précédemment, le travail sans cesse, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance, vous a conduit à entrer dans cette relation spirituelle avec Dieu devenu votre Père, à avoir en même temps le sens de votre responsabilité. Parce que dans les Saintes Écritures, l'expression « devant Dieu » traduit le sens de sa responsabilité envers celui qui est devenu notre Père, qui nous a adoptés en Jésus-Christ, qui s'est arrêté sur nos misères, qui nous a saisis sur le chemin de la vie pour nous faire rentrer dans son plan béni et qui nous conduit à y demeurer. Que Dieu soit béni. Alors, notre évangile dira-t-il... Excusez-moi, le verset 4 est important. Le verset 4 est important comme un résumé de ce que nous avons lu précédemment. Nous savons, frères bien-aimés, ah, vous avez vu comment il mentionne, hein? Laissez-moi vous dire que la barre est mise très haute, hein? Nous savons, frères bien-aimés de Dieu. C'est pas souvent dans les Saintes Écritures qu'on lit ça, hein? Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Donc, il nous met en la réalité de l'élection. Et vous savez que l'élection ne peut être autre chose que le résultat de la prédestination. L'élection prédestination qui est appelée l'appel divin, qui nous a fait rentrer dans la révélation. Et puis, cela nous a conduit, aidez-moi, à l'adoption. Mais l'adoption est toujours précédée de la justification. Autant de choses qui découlent comme des actes qui accompagnent la rédemption, l'œuvre de Jésus à la croix, et dont ce matin, vous, moi, nous tous comme enfants de Dieu, c'est-à-dire vous tous, nous sommes bénéficiaires. Est-ce qu'on est conscient de ça, frères et sœurs en Christ? Est-ce que nous sommes conscients de ça ce matin? Vous savez, quand le Seigneur nous parle, ça nous semble comme si c'est quelque chose qui est normal. Mais non, je dis, c'est pas normal. C'est la grâce de Dieu. Et quand tu comprends cela, frère, tu ne peux pas te complaire simplement, dire, voilà, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, et maintenant, désormais, je fais ce que je veux. Non, tu es responsable devant Dieu. On est responsable. Et plus nous allons avancer avec le Seigneur, le Saint-Esprit en nous va nous rendre responsables quant à notre position dans le corps de Christ. Alors, je vous ai dit qu'on va jusqu'au verset 10, hein. Notre évangile, dira l'apôtre, ne vous a pas été prêché en parole seulement. Mais il vous a été prêché aussi avec, alléluia, avec puissance. Et cette puissance n'est pas autre chose que le travail dû avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. À cause de vous, et ce que nous lisons ici, eh bien, n'est pas autre chose qu'une répercussion du verset 4. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été, alors c'est à cause de ça, puisque Dieu vous avait élu, alors il nous a envoyés. Et parce qu'il nous a envoyés, au cours de 3 sabbats, le travail a été fait. C'est pas parce que l'apôtre était plus grand qu'un autre, il était dans le plan de Dieu. Ceux qui devaient expérimenter le salut étaient gardés pour ce salut de la part de Dieu. Le timing, l'heure était arrivée pour eux. C'est pourquoi il ne faut jamais, frères et sœurs, en Christ, se décourager. Pour vous qui êtes des parents, qui avez des enfants, pour toi, ma sœur, qui a ton mari est converti, pour toi, mon frère, dont l'épouse n'est pas encore convertie, il ne faut pas te décourager. Dieu a son plan, il le poursuit. Et ce qu'il a résolu, il l'accomplira. Mais vous avez vu que l'apôtre disait qu'il ne cessait de prier pour eux. Pourtant, ils étaient déjà dans le salut, mais l'apôtre faisait mention d'eux. C'est-à-dire, c'est là un petit peu ce qui découle de la situation, de l'attitude du Père par rapport aux enfants qui ont été gagnés en Christ et dont les parents veulent maintenant le meilleur pour leurs enfants. Et ce matin, il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut le meilleur pour toi, mon frère. Il veut le meilleur pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il veut le meilleur pour nous de la part du Père. Nous savons, frère bien-aimé de Dieu, que vous avez été élu. On continue. Et vous-même, dira l'apôtre, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, mais avec la joie du Saint-Esprit. Alléluia. L'affliction est là. Tu ne peux pas le changer. Mais puisque Dieu intervient parce que tu as été élu, alors il remplit ton cœur de joie. Et même si l'affliction est là, tu fais fi de l'affliction et ton cœur laisse la joie t'envahir. Et la joie du Seigneur devient ta force. Et parce que la joie du Seigneur est ta force, tu vas pouvoir maintenant avancer sur le chemin de la persévérance où Dieu t'a engagé à marcher d'abord derrière Jésus pour apprendre de lui, à côté de lui pour la communion et devant lui parce que tu es responsable maintenant. Amen. Que Dieu soit. Alléluia. C'est ça l'œuvre du Seigneur pour son peuple, pour son église, pour ses enfants, comme à Thessalonique, mais comme pour nous ce matin. On continue. Recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Donc, dans la Macédoine et de l'Achaïe, il y avait des croyants. Mais à Thessalonique, cette église était un modèle. Tellement le travail du Seigneur avait été profond, réel, véritable. Je dirais même que Thessalonique, mon frère Henri pourrait être considéré à certains aspects comme un vivier. Un vivier où le Seigneur permettait qu'il y ait des âmes. Des âmes sauvées. Des âmes gagnées. Mais des hommes et des femmes qui étaient en route pour être affermis après avoir été affranchis. De telle manière qu'ils étaient regardés. Il y avait un témoignage qui découlait de leur engagement pour Dieu. Et pour Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce matin, as-tu un témoignage? As-tu un témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie? Certes, tu l'as pour toi, mais si tu l'as pour toi, ce n'est pas autant pour toi que tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir pour les autres. Puisque avec le témoignage de Dieu, de Jésus-Christ que tu portes en toi, puisque tu as été élu, désormais tu es devenu une lumière pour le monde. C'est bien de dire amen, mais avant de dire amen, avant d'être une lumière pour le monde, Jésus dit que vous êtes le sel pour la terre. Est-ce que tu es du sel pour la terre ce matin? Moi, j'ai la réponse pour moi. Vous savez, le sel, hein, il a cette propriété, c'est d'amener du goût, de la saveur, de donner soif. Mais une de ses particularités consiste à empêcher la prolifération de la corruption. Ah oui? Un enfant de Dieu est placé quelque part, ce sont des propriétés spirituelles que le Saint-Esprit qui habite en lui va répandre. Et quand même on vous demanderait compte de votre espérance, c'est là que vous ouvrez la bouche et que de l'abondance de votre cœur, la bouche parle. Oh, on n'a pas besoin de faire de grandes déclarations. On n'a pas besoin de se battre contre ceux qui nous demandent compte de notre espérance. On n'a qu'à leur montrer simplement. Puisque ce qu'on va leur expliquer par la bouche, ils le voient déjà en nous, à l'extérieur. Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous a cette capacité de rendre témoignage à la conscience du païen. Nous montrer comment tu n'as pas vu comment Alfred, il est sage, il est différent. Et ils viennent vers vous et disent, mais expliquez-moi, monsieur, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce qu'ils n'arrivent pas à définir ce que vous êtes réellement. Pourquoi est-ce pour rien, c'est pour rien que Jésus nous a expliqué cela? Est-ce que vous connaissez Nicodème? Ben, vous le connaissez, Nicodème. Quand Nicodème est venu de nuit vers Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il nous dit, mais il y a un homme nommé Nicodème, qui lui vint vers Jésus de nuit. Et voici sa confession, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'est bien. Jésus aurait bien pu dire, c'est pas souvent qu'on parle de Jésus ou à Jésus de cette manière. N'oublions pas que celui qui est concerné, Jésus, quelquefois il a des détracteurs. Lorsqu'il dit ce que Dieu dit, les gens religieux s'opposent à lui. On cherche à le surprendre en flagrant délit de transgresseur de la loi. Enfin, beaucoup de choses qui étaient contraires à ce que Jésus répondait. Mais Nicodème est venu avec un bon témoignage. Jésus aurait pu dire, Nicodème, je remercie Dieu pour ton témoignage. Tu fais une belle déclaration extrêmement évangélique et merveilleusement apostolique. C'est en sa faveur. Mais Jésus va profiter de cet instant, parce que Nicodème, c'était un docteur de la loi. Vous savez ce que Jésus va lui dire, Nicodème? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous n'êtes pas né de nouveau, l'expérimentation de la nouvelle naissance qui fait de vous une habitation de Dieu en esprit, ses yeux spirituels restent fermés. Il n'a pas le discernement approprié pour pouvoir juger. Donc ça veut dire que c'est important d'être né de nouveau. Et puis après Jésus continue. Donc, premier aspect, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Mais s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans ce royaume. Donc deux étapes. Naître de nouveau, les yeux spirituels s'ouvrent. Mais naître d'eau et d'esprit, action conjuguée du Saint-Esprit et de la parole, c'est ce que ça veut dire ici. À ce moment-là, il ne peut entrer dans ce royaume. Lorsqu'il rentre dans le royaume, ce sont les valeurs du royaume, puisqu'il est né de nouveau, qui vont s'établir en lui. La vie des choses d'en haut va s'exprimer en lui. Et là, il va se retrouver au bénéfice de ce que l'apôtre dit aux Colossiens. Deux textes. Colossiens 3:1, si véritablement vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. La raison, c'est que vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Où sont ceux ce matin qui sont nés de nouveau? Levez la main. Ah. Et vous savez que lorsqu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit fait un travail immédiat. Le Saint-Esprit met dans votre cœur une espérance vivante. Qui n'est pas liée à la autre chose, qui est pas liée aux circonstances ici-bas, mais qui est liée à la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et qui possède des particularités qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, ni se souiller. Cela vous est, dites avec moi, réservé dans les cieux. À qui? À vous qui, par la foi, êtes gardés pour le salut prêt à être manifesté dans les derniers temps. Et vous savez ce que l'apôtre ajoute après? C'est là ce qui fait votre joie. Puisque maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves. Vous voyez comment le Seigneur est intelligent dans ce qu'il fait. Il n'a pas mis l'épreuve en avant, mais il a mis la nouvelle naissance, l'espérance vivante avant. Avec des épreuves, il y en aura toujours. Mais rien ne peut changer ça dans le cœur de l'enfant. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, lorsque vous avez expérimenté la grâce de Dieu et que vous êtes attachés à Jésus comme ces êtres, ces frères et sœurs de Thessalonique, eh bien, même s'il y a des afflictions, mais vous continuez à avancer. Et d'abord, je dirais même que Dieu vous conduit à avancer. En tout, ce n'est pas autant nous qui le faisons. Hein. Parce que Esaïe a pris soin de l'Éternel. Tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Hein. Parce qu'il ne faut pas que je croie que je sois meilleur que les autres. Hein. Car si je crois que je suis meilleur que les autres, le jour ça n'ira pas, je vais flancher. Mais je me vois avec quelquefois mes tares, mes lacunes et mes manquements, mais je vois Jésus au-dessus de tous. Et quand je comprends que c'est Jésus qui est au-dessus de tous, alors vous savez ce que je fais? Quand l'épreuve est là, je me réfugie en Jésus. Je m'appuie sur lui. Dieu pour nous est pour nous un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Lorsque le monde s'agite, moi je suis sans crainte. Et lorsque tout à l'heure les bien-aimés me demandaient, parce que j'en dis comment ça va. Vous savez, frères et sœurs, Christ, lorsque vous êtes dans la main de Jésus, il y a le risque que certains qui sont autour de vous ne vous comprennent pas. Mais je vous le dis, hein, parce que moi je le vis. Je dis, comment il est toujours? Écoutez, si je me mettais à vous raconter les épreuves, je crois que vous commenceriez à pleurer même avant moi. Mais parce que ça dit, on croit que tout va bien. Non, parce que c'est quand vous êtes dans la main de Jésus. Il vous apprend à vous décharger sous lieu de vos soucis. Ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis bébé spirituel que Dieu m'a toujours conduit comme ça. Alors, si après quelques années de marche avec lui, eh bien, il m'a permis de vivre ces choses-là, c'est pas maintenant que je vais commencer à me lamenter. Hein. Non, lamentation. Pourtant, il y a les combats. L'apôtre parlait des soucis que lui créaient les églises. Mais c'est le même qui disait soyez toujours joyeux. Hein. C'est le même. Parce qu'il savait qu'il servait. Il savait qu'il savait. Il savait d'où le Seigneur l'avait sorti. Il savait que celui qu'il avait établi était toujours avec lui. Et j'ai aimé le témoignage de ma sœur Essono qui nous a rappelé que malgré ces moments de souffrance, de lit de douleur, la main. Ma sœur Essono, tu te rappelles que je t'ai envoyé un message. Hein, et j'ai même prié pour toi dans le texte intitulé que la déclaration de Néhémie qui confessait la réussite des travaux malgré l'hostilité de l'opposition et il conclura. Les travaux avançaient parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Ce matin, la bonne main de notre Dieu n'est pas simplement sur ce réseau, non. La bonne main de notre Dieu est sur chacun de nous ce matin. Oui, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et lorsque Néhémie a parlé à ses collaborateurs, vous savez, quand la bonne main de Dieu est sur vous, il met toujours des gens à côté de vous qui seront maintenant avec vous, pour pouvoir autant combattre, mais c'est un peu comme ces quatre hommes qui ont mené le paralytique vers Jésus à Capernaum. Alléluia. Ceux à qui il a rendu le témoignage, leur expliquer comment Dieu avait œuvré pour qu'ils soient là, sortant de la déportation d'où il était à Suse pour venir là, à Jérusalem, pour commencer les travaux. Oh, on s'est moqué de lui. Laisse-les bâtir. Même si un renard passe, l'homme, il va s'écrouler. Laissez les moqueurs. Des moqueurs, il y en aura toujours. Mais c'est pas parce qu'il y a des moqueurs que moi, je suis freiné dans l'œuvre de Dieu. Moquez-vous, mais moi, j'avance avec Jésus. Alléluia. Alors, Néhémie dira que lorsqu'il leur a rendu le témoignage, après avoir commencé à étudier la faisabilité du projet, Néhémie dit, et ils se fortifièrent avec moi dans cette bonne résolution. Pourquoi? Parce que quand Dieu maintenant approuve les voies d'un homme, il va disposer favorablement à son égard, même ses ennemis. Alors quand il vous approuve, il y aura des détracteurs, il y aura des moqueurs. Mais Dieu mettra toujours à côté de vous ceux qui ont la même vision que vous. Et ils vont œuvrer, ils vont combattre, et même à l'insu de ce que les hommes pensent ou voient, le Saint-Esprit va les utiliser et ils vont faire bloc de telle manière que l'ennemi de notre âme, qui n'est jamais absent ni en retard pour faire un mauvais coup, Dieu va le ruiner dans ses entreprises parce qu'il veut que son œuvre avance. Eh bien, au milieu de nous, dans cette église, c'est le même processus. Dieu veut que son œuvre avance. Et les détracteurs, il y en aura. Mais Dieu va les bloquer de la manière qu'il a choisie et il va faire en sorte que son œuvre avance et prospère. Que Dieu soit. Alors, je reprends la lecture. Hein. Bien, que Dieu soit béni. Alors, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants, verset 7, de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine. Je vous ai dit, c'est un vivier. Hein. La parole a retenti de chez vous dans la Macédoine. Mais lorsqu'il dit la Macédoine, c'est pour nous montrer que la parole est partie de Thessalonique, mais s'est répandue dans la Macédoine entière. Mais il a traversé la Macédoine. Il est allé jusqu'à dans l'Achaïe. Ah, frère et soeur en Christ, l'évangile n'a pas de frontières. Quand Dieu a pris une chose en main, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. De l'opposition, il peut y en avoir. Mais Dieu nous fait franchir les barrières. Nous fait passer dans des vallées. Mais quelquefois aussi, il nous fait franchir des montagnes. Et s'il n'y a pas la facilité pour franchir la montagne, vous savez ce qu'il fait? Il fait une ouverture dans la montagne, un tunnel. Mais un tunnel sans Jésus-Christ, il y a danger. Mais puisque Jésus est notre lumière, le Seigneur fait le tunnel, mais il met Jésus devant nous. Alors on traverse le tunnel jusqu'à ce que nous en sortions pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, l'obstacle, ainsi est sûr, monter. Gloire à Dieu. Un vivier. On continue. L'Achaïe, mais encore, pour montrer quel a été l'effet du travail accompli par le Saint-Esprit au travers des instruments qu'ont été l'apôtre et ses collaborateurs, à partir d'une réalité. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Alors, non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, comme je viens de vous le dire, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Une foi qui traverse les frontières et qui se répand là où Dieu veut que cela porte son effet. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet, donc nos serviteurs du Christ, quel accès nous avons eu auprès de vous. Quel accès? Dieu a ouvert une porte. Pourquoi? Vous avez été élus. Alors, et comment vous vous êtes? Vous êtes converti à Dieu. Vous n'êtes pas converti à Paul, mais vous êtes converti à Dieu. Deuxième chose, après la conversion, dès lors que Dieu touche un cœur, il détruit les idoles. Car Dieu a horreur de l'idolâtrie. Quand l'idolâtrie dans le cœur, eh bien, n'est pas autre chose que la substitution de la place qui devait revenir à Dieu à une idole, une divinité, de quel code soit-il. Quand Dieu voit ce qui est dans le cœur, eh bien, Dieu a détruit l'idolâtrie. Et pourtant, celui qui vous parle, c'était un grand idolâtre. Ben oui, avant de connaître Jésus, j'étais un idolâtre. Je n'ai pas honte de le dire. Mais quand Jésus est venu, il a fait comme ce qu'il a été dit à Gédéon, il a dégagé l'idole. Et puis, Jésus a pris la place sur le trône de mon cœur. Jésus est-il sur le trône de ton cœur ce matin? Ben oui, si comme à Thessalonique, tu es élu, tu as été élu, si tu es un frère bien-aimé de Dieu, eh bien, Jésus est sur le trône de ton cœur. Vous êtes sûr que Jésus est sur le trône de votre cœur ce matin? Ah, d'accord. Mais quand Jésus est sur le trône d'un cœur, que la question est posée, il y a quelque chose qui bondit à l'intérieur. Ah oui. Où sont ceux qui ont la certitude que Jésus-Christ est sur le trône de leur cœur? Levez la main. Ah ben là, ça va mieux là. Vous avez baissé les mains vite, hein? Ah, mes bien-aimés, nous sommes dans la présence de Jésus. Et on ne lève pas la main parce que le pasteur l'a demandé, si vous l'avez fait. Mais ce qui est important, c'est que cela soit une réalité en vous. Et si c'est une réalité en vous, eh bien, de cela, tout le reste va découler. Ah, il y a quelque chose qui me revient. Qu'est-ce qui vous revient, pasteur?
Mais tout à l'heure, je m'adressais à mon frère Ekwala, je disais, Ekwala, tu sais, est-ce que tu connais M. Nicodème? J'avais pris deux critères, mais il a manqué quelque chose. Et le Seigneur me le rappelle là maintenant, à l'instant. Il a dit, si quelqu'un, un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. S'il ne naît de l'esprit, il ne peut entrer. Mais après, Jésus va prendre un temps pour expliquer quelque chose qui va tellement merveilleusement, mais qui est au-delà de ce que les yeux voient, de ce que les oreilles entendent et que l'esprit comprend. Jésus va dire, Nicodème, pourquoi est docteur de la loi? Parce que Nicodème, il va réagir aux paroles de Jésus. Les paroles de Jésus vont toujours faire réagir. Mais après, sa réaction, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. C'est-à-dire, comment un homme, lorsqu'il est vieux, peut-il entrer dans le ventre de sa mère et naître? Il a vu les choses uniquement sur un plan humain. Mais Jésus va non seulement élever le niveau, mais va expliquer. Il va expliquer Nicodème. Le vent souffle où il veut. Qu'est-ce que le vent? C'est un élément, l'un des éléments que Dieu a créé. Mais tu ne sais ni d'où il sort, ni non plus où il va. Mais si le vent souffle, et si tu en entends le bruit, parce qu'il a bien dit tu entends le bruit, pourtant tu ne le vois pas, mais ce n'est pas parce que tu ne le vois pas, mais tu as la réalité de sa présence, seulement tu le ressens, mais tu entends le bruit. Tout en sachant ni d'où il sort, ni où il va. Et vous savez, le vent a beaucoup de travail dans la réalité de la nature. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne suis pas naturaliste, etc. Mais je sais que le vent a beaucoup de travail. Mais pour revenir à ce que je vous dis, ainsi dira-t-il à Nicodème, ainsi est tout homme qui est né de Dieu. L'image du vent, c'est pour montrer que si tu ne vois, ne sais ni d'où il sort, ni où il va, mais cependant tu peux voir ce qui produit, car lorsqu'un vent fort ou un cyclone passe, il y a du dégât. Et si c'est un vent qui est une petite bise qui passe, tu en ressens les effets. S'il fait très chaud et puis un bon petit vent rafraîchissant passe, tu en bénéficies. Donc le vent toujours porteur de quelque chose. Et si tu sais ni d'où il sort ni où il va, mais tu peux ressentir les effets, tu peux voir les conséquences de son passage et tu peux en être bénéficiaire. Ça veut dire que même si tu ne peux pas définir celui qui est né de nouveau, mais tu vas le reconnaître à ses œuvres. C'est ça que ça veut dire. Tu vas pouvoir tirer des conséquences de sa présence, de sa parole et de ses œuvres. Parce que dès lors qu'on est né de nouveau, nous entrons dans une catégorie où les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous sommes appelés à les pratiquer. Alors je continue pour arriver jusqu'au verset 10. Revenons au verset 9. Car on raconte à notre sujet, dira l'apôtre, quel accès nous avons eu auprès de vous. Dieu a préparé le terrain. Et comment vous êtes convertis après la repentance, à l'abandon des idoles, ce qui découle véritablement de l'expérience avec Jésus. Et maintenant, nous sommes placés sur le terrain du service. Alléluia. Pour servir. Pourquoi es-tu là ce matin, mon frère, ma sœur? Je suis venu pour servir mon Seigneur. Pourquoi? Parce que je suis sujet de sa majesté. Le roi est sous son trône, il règne. Mais nous sommes les sujets de sa majesté. Et avec un maître comme Jésus, un roi comme Jésus, on le sert avec joie. On le sert avec joie. Parce que le servant avec joie, nous savons qui nous servons, nous savons d'où il nous a sortis, nous savons quel témoignage nous avons au travers de son œuvre, et nous savons qu'au travers de sa venue, c'est Dieu qui a pourvu, Dieu l'a envoyé. Et lorsqu'il est venu d'abord pour Dieu. C'est le principe de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est sacrifice complet pour Dieu. Et quand Jésus, la divine Holocauste, s'est offert à Dieu, il s'est offert à Dieu sans tâche. Parce qu'il fallait qu'un innocent paye pour les coupables. Et lorsque nous remontons à l'origine des choses et que nous regardons déjà depuis le jardin d'Éden, après la transgression, frères et sœurs en Christ, nous avons vu comment Dieu, pour couvrir sa créature, qui malheureusement avait pris ce paramètre et cette direction de se constituer des vêtements de feuilles, de figuier, Ah, s'il fallait des feuilles de figuier pour couvrir sa nudité, ça aurait duré un temps. Mais la feuille de figuier, dissociée du figuier, tôt ou tard, elle va sécher. Hein. Mais toute justice humaine, tôt ou tard, ça va sécher. Mais quand Dieu lui vient pour que sa créature paraisse ou reparaisse en sa présence, soit reçue, alors Dieu a tué une bête. Premier sacrifice de l'histoire de l'humanité, et Dieu leur a confectionné des vêtements de peau. Merveilleux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu le même principe de ce que Isaac entend de la bouche de son père. Mon père, voici le feu, voici le couteau, etc. Tout est là, mais mon père, où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Réponse du père, mon fils, Dieu se pourvoira. D'abord, quand il pourvoit, c'est d'abord pour lui. Quand Dieu envoie Jésus, c'est d'abord pour lui qu'il pourvoit, c'est pour lui. Et en donnant Jésus, Dieu pourvoit d'abord au don, mais il pourvoit au sang du sacrifice. Jésus venait pour satisfaire Dieu. La justice et le jugement de Dieu exigeaient que le coupable paie pour sa mauvaise conduite. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quel amour, frères et sœurs, en Christ. Quelle grâce. Et puis, étant bénéfice d'une telle grâce, nous resterions la bouche fermée. Nous nous tairions parce que nous sommes entrés dans le salut et puis on se complaît en y demeurant. Mais écoutez, il y a cette parole des Lamentations de Jérémie où le prophète déclare « Les enfants demandent du pain, mais personne ne leur en donne. » Mais plus haut, il mentionne « Et quoi ? L'or a-t-il perdu son éclat ?» Que veut-il dire par là ? Nous avons reçu les choses d'en haut. L'or. Avec l'or, c'est ce qui est précieux, ce qui est divin. L'argent nous parle de la rédemption, le rachat. Mais après, il y a des enfants qui demandent du pain et personne ne leur en donne. La langue des nourrissons est desséchée par la soif. Des âmes ont soif au dehors, des âmes ont faim. Mais Isaïe a entrevu, oui, peuple d'Israël, il ne pleurera plus. Car dès qu'il aura entendu, il exaucera. Et puis dans l'exaucement, qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Mais c'est exactement ce que nous avons reçu de la part du Père quand la révélation de Jésus nous a été apportée. Pourquoi ce matin mon âme est rassasiée? Pourquoi ce matin mon âme est désaltérée? Parce que Dieu m'a fait un don. Dieu t'a fait un don. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Ce cantique que le foyer Jéhovah nous fait chanter quelquefois, quel repos céleste. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Et puis tout ce qui s'ensuit, vous savez ce qu'on va faire? On va le chanter à la fin du message. Alléluia. Ah, que Dieu soit béni ce matin, je conclue. Je conclue, mes bien-aimés, parce que Dieu est au milieu de nous. Donc, vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et dès lors que je suis devenu un enfant de Dieu, eh bien, le Saint-Esprit m'a fait rentrer dans le plan béni de Dieu que désormais, je suis appelé à servir celui qui est venu pour me chercher, me racheter, me sauver et me donner véritablement à entrer dans le plan béni de Dieu. Donc, attendre des cieux, après avoir compris en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant des vrais, et voici que le verset 10 est la conclusion de l'ensemble de ce qui est énoncé, et pour attendre, et attendre des cieux. Qui ? Attendre des cieux, son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère. Alléluia! Alléluia, frères et sœurs! C'est ça la vie chrétienne! C'est pas des amen, des alléluia! C'est une réalité spirituelle dans laquelle Dieu nous fait rentrer, qui nous conduit à demeurer, qui nous conduit par son Esprit Saint à travailler pour que de plus en plus, hein, ce que nous avons reçu nous amène non seulement à affermir nos pieux, mais aussi à élargir nos tentes. Parce qu'il y a des besoins dehors. Gloire à Dieu. Cela veut dire ce que nous venons de lire nous montre que, puisque nous sommes des frères bien-aimés de Dieu, tout ce qui a précédé se conclut par « Pour attendre des cieux, nous sommes placés sur le terrain de l'espérance. » Ah, mon frère, ma sœur, la plus belle chose pour nous, c'est que malgré le Covid, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré l'hostilité d'un monde, sous des deuils artistiques, politiques, religieux, tentations, séductions, l'ennemi ne lâche pas le morceau, mais nous non plus, on ne lâche pas le morceau. Parce que nous savons en qui nous avons cru que Dieu soit et que le nom de Jésus soit glorifié. Mettez-vous debout, frères et sœurs en Christ. Mettons-nous debout. Et nous allons chanter avec Gérard. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Et avant que le frère Gérard nous fasse chanter, vous savez, quand on est serviteur du Christ, on a toujours le désir d'obtenir de la part du Seigneur le meilleur pour ses enfants. Et vous connaissez le pasteur Gentil, moi, j'aime partager avec vous ce que je vis avec Jésus dans le secret, oui, je peux le dire. Alors ce matin, je suis debout de bonne heure, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais prêcher à tes enfants? J'ai beau tourner, chercher, le Seigneur reste muet. Mais à un moment donné, il m'a dit, Claude, qu'est-ce que tu as à t'embêter? N'es-tu pas mon instrument que j'ai choisi? Eh bien, je vais mettre ma parole dans ta bouche. C'est ce qu'il m'a dit. Moi, je vous le dis. Hein. Il m'a dit, je vais mettre ma parole dans ta bouche ce matin. Des fois, on prend le temps, on prend des notes. Et ce matin, je n'ai pas eu le temps de prendre ni notes, ni quoi que ce soit. Il m'a dit, je mettrai ma parole dans ta bouche.